comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Voilà, quelques lignes de ce texte, on les connaît bien, parce que ce sont celles qui font surpasser plutôt les femmes dans les bancs des églises, lorsqu'on dit que la femme doit être soumise à son mari. Et surtout, ce qui est intéressant pour nous ce soir, c'est que l'Épître aux Éphésiens contient le décor de ce qu'est sacramentellement le mariage, et c'est ce qu'on va essayer d'approfondir. Alors je voudrais, dans ce temps préalable, qui est à la fois, j'espère, une méditation et à la fois une introduction, porter notre regard sur quelques aspects que nous présente cette Épître à l'école de Saint Jean-Paul II, dans sa théologie du corps. Lorsque Saint Paul écrit ce passage de l'Épître aux Éphésiens, on est dans une Épître qui est à la fois morale et profondément spirituelle. Rappelez-vous, il y a quelques passages très importants dans cette Épître aux Éphésiens, notamment dans le chapitre 3, où on demande que le Seigneur, selon la richesse de sa grâce, daigne nous armer de puissance par son esprit pour qu'il se fortifie en nous l'homme intérieur. Et Saint Paul nous dit, si ça se réalise, alors vous comprendrez quelle est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, et vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude de Dieu. Donc on est vraiment dans une perspective très très large, très, très profonde de vie spirituelle, c'est-à-dire que l'Esprit vient nous faire vivre pour que nous vivions pleinement de cette plénitude de Dieu, c'est la vie éternelle. Et donc, c'est vraiment la ligne que saint Paul développe dans cette Épître aux Éphésiens, d'essayer de nous faire saisir quel est le plan du salut, comment Dieu veut nous attirer à lui. Et donc, il nous invite à prendre toute notre envergure humaine et nous laisser fortifier intérieurement par la grâce. Alors évidemment, il reprend les choses que le Seigneur a introduites dans l'Évangile et sur lesquelles Saint Jean-Paul II va s'appuyer aussi pour expliquer ce chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Il va nous renvoyer, Saint Paul va aussi rechercher l'origine, comme Saint Jean-Paul II avait été recherché l'origine pour montrer comment le mariage était indissoluble. Il va aller chercher la qualité du cœur humain, comme l'Évangile nous y invite, notamment dans le Sermon sur la montagne. Il nous met dans la perspective de la résurrection future, qui est vraiment la perspective qui va sous-tendre aussi tout le développement de Saint Jean-Paul II pour nous faire comprendre quelle est la beauté de cet amour humain. Mais au sujet de ce passage là, de l'Épître aux Éphésiens, Saint Jean-Paul II nous dira qu'il est le couronnement de tout cela, de tout ce qu'on vient d'évoquer très, très brièvement. Parce que justement, Saint Paul, dans la logique de l'Épître aux Éphésiens, c'est le plan de l'amour de Dieu pour le salut de l'homme, et il fait vraiment rimer ça avec une vocation. Une vocation, c'est-à-dire un appel qui vient du désir de Dieu et qui va se manifester dans le mystère du Christ. Alors, quand on parle, comme on le fait ici, de ce que saint Jean Chrysostome appellera l'église domestique, le foyer, la famille, eh bien, saint Paul, cette église domestique, il va vouloir l'inclure dans un lien très étroit avec ce fameux mystère du Christ. Le mystère du Christ chez saint Paul, ce n'est rien d'autre que le déroulement du plan du salut qui nous est révélé, dévoilé peu à peu, et qui évidemment trouve son sommet lorsqu'on s'apprête à célébrer dans le mystère pascal, lorsqu'on contemple le Christ en croix et le Christ vivant au jour de la résurrection. Que veut saint Paul là-dedans? C'est la sainteté. La sainteté du peuple de Dieu, en l'occurrence la communauté des Éphésiens, mais plus précisément, faire passer cette sainteté du peuple de Dieu par celle de la plus petite cellule de l'Église, qu'est la famille elle-même. Et donc le foyer, et c'est ce qui doit ressortir de cette lecture de l'Épître aux Éphésiens, le foyer, la famille elle-même, doit être l'écrin de la sainteté de chacun. Et puis, évidemment, nous situe dans la perspective du combat spirituel, mais d'un combat spirituel qui se trouve aussi dans la grandeur et la qualité des relations familiales. Donc on voit bien que, vous savez, il y a quelques années, lorsque Saint Jean-Paul II a fondé l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille, il a confié ça au père Caffara, qui deviendra cardinal ensuite, et qui était un peu saisi par la tâche, et qui, dans les personnes qu'il a été rencontré pour prendre conseil, a été rencontré Sœur Lucie de Fatima. Et Sœur Lucie lui a écrit une lettre, peu de temps après, dans laquelle elle écrivait « Le dernier combat entre le diable et le Christ portera sur la famille. » Et c'est assez intéressant de voir ça, mais évidemment, parce que, comme on le voit là, cette famille est l'écrin de la sainteté, et donc le lieu aussi où le combat spirituel peut être particulièrement fort. Ce combat spirituel, c'est-à-dire cette œuvre de la grâce en vue du salut, de la sainteté de tous, va s'appuyer sur une saine conception du respect des uns et des autres, et l'approfondissement de cette fameuse soumission les uns aux autres dans la crainte du Christ, comme dit Jean-Paul II, en reprenant saint Paul, bien évidemment. On le voit, on n'est pas dans une soumission servile, avec un rapport de pouvoir ou d'autorité, mais dans la crainte du Christ, au sens propre du terme, la pietas, c'est-à-dire la vertu de piété, qui fait que c'est l'amour qui fait que on ne cherche jamais à décevoir. Voilà, évidemment, tout ça, c'est éclairé par la conscience aiguë, mais ferme, de ce fameux mystère du Christ. Donc, par la foi, il va nous aider à comprendre la valeur des relations conjugales, des relations sponsales, comme va le dire Jean-Paul II. Alors, on voit dans cet extrait aussi l'analogie entre le mariage et l'amour du Christ pour son Église, une analogie qui est d'une très grande puissance, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, le mari est la tête de sa femme comme le Christ est la tête de l'Église. Et donc on perçoit cette réciprocité qui est importante, parce que c'est relativement aisé, d'appréhender les rapports du Christ avec l'Église, l'Église née du côté du Christ, au vendredi saint, lorsque le côté s'est ouvert, l'eau et le sang ont jailli, l'eau baptismale, le sang rédempteur, évidemment, on le voit. On voit aussi comment l'Église a vraiment pris forme lorsque le Saint-Esprit est envoyé, le Christ avait dit, je vous enverrai le paraclet, le consolateur. Mais il y a aussi une réciprocité qui fait que c'est peut-être moins naturel de saisir le rapport de l'Église avec le Christ. Les relations réciproques entre le mari et la femme doivent être comprises comme les relations réciproques entre le Christ et l'Église. Et du coup, déjà à partir de ce texte, il en découle une vérité essentielle sur le mariage. Le mariage ne correspond à la vocation chrétienne que lorsqu'il reflète l'amour que le Christ époux donne à l'Église et que celle-ci s'efforce de le lui rendre. Et nous qui sommes membres de l'Église, nous qui sommes l'Église, on se rend bien compte que, eh bien, c'est un travail, quoi. C'est un combat spirituel que d'essayer de rendre cet amour au Christ. La source de la perfection de cette relation à laquelle on est appelé est celui dans l'amour de l'époux pour l'épouse, à l'image même de l'amour du Christ souffrant sur la croix. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé les vies, il s'est livré lui-même pour elle. Voilà. Donc, aimer in forma crucis, on dit en forme de croix, jusqu'au don de soi. Notons enfin un autre élément qui peut aussi camper un peu l'assise spirituelle de ce qu'on va développer ce soir, c'est l'analogie entre la tête et le corps. L'Église est le corps du Christ, elle est comme le corps du Christ. Et on dit que le Sauveur, on dit qu'il faut aimer son corps, le respecter. Le Christ est aussi le sauveur de son corps, qui est l'Église, et qui reçoit de lui son être. Alors là, ça nous renvoie aussi à l'origine, évidemment, où on voit Ève qui se reçoit d'Adam dans le livre de la Genèse. On voit très bien ce parallèle-là qui existe entre le Christ qui donne vie à l'Église et qui la sauve, et Adam qui, malgré lui, parce qu'il était dans la torpeur, mais fait que Ève se reçoit du corps d'Adam. Et le Christ, pour son corps qui est l'Église, se donne jusqu'au bout. Et pour cette raison, Saint Jean-Paul II pourra lire dans cet extrait la grandeur de l'amour sponsal exprimé par le Christ pour son Église, dans le don total de lui-même, par amour, qui devient le modèle de l'amour conjugal. C'est ce qui va pousser Saint Paul à conclure ce passage en introduisant ce terme sur lequel va se fonder une grande partie de la théologie du mariage, du sacrement de mariage. Ce mystère est grand. Ça, c'est vraiment la parole clé. Saint Jean-Paul II dira d'ailleurs qu'il a fait de vous. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. La grandeur de ce mystère, c'est évidemment que le plan de Dieu, son plan de salut, par le Christ, se révèle aux hommes. Et pour nous, c'est un peu une grâce de relire ce texte pendant le temps de carême, parce que on voit bien le Christ monter à Jérusalem, on commence à avoir les yeux fixés sur sa passion, sur le don de lui-même. Et en fait, le don de lui-même, c'est pas simplement une démonstration d'amour, mais c'est véritablement le Dieu qui vient nous révéler son amour, le mettre à notre portée, le mettre à portée de notre propre chair. Voilà, donc le sacrifice du Fils révèle à l'humanité l'immensité insondable de son amour. L'amour de Dieu prêt à offrir son Fils pour notre salut. Eh bien, si ce mystère est grand, comme dit saint Paul, c'est parce qu'il est aussi consigné entre les mains de l'homme par le sacrement de mariage. C'est ce mystère qui se vit dans l'alliance conjugale, qui devient du coup l'expression la plus proche de cette œuvre d'amour. C'est assez fou, hein, que la chose qui soit humainement la plus naturelle, le mariage est fondamentalement naturel, l'alliance entre l'homme et la femme pour la génération des enfants, etc., exprime de la manière la plus pointue la grandeur de l'amour de Dieu qui se donne pour notre salut. Et c'est pour ça que Saint Jean-Paul II utilisera le terme de sacrement primordial en l'appliquant au mariage pour dire, eh bien, sur le modèle du mariage, sur cette réalité qu'est le mariage, on va pouvoir saisir, comprendre, au moins toucher un peu du doigt, ce qu'est justement le don du Christ, le plan de salut, don du Christ pour son Église. Voilà, donc c'est assez stupéfiant de penser que par ce sacrement de mariage, Dieu met à notre portée, avec les éléments les plus naturels, fondés dès l'origine, avant même le péché originel, l'œuvre de salut, pour qu'on puisse les vivre dans notre chair et approcher comme ça le don qu'il fait de sa grâce. Donc le mariage va être dit sacramentel, justement pour ça, dans le sens où il fait vivre d'une manière efficace l'œuvre de salut du Père, de telle manière que nous puissions l'éprouver jusque dans notre chair. Voilà. Ça fait, l'autre jour, on était avec des couples, là, voilà. Une réunion une fois par mois avec des oratoires, et puis on parlait du mariage, et je partageais, on était dans l'hymne corinthien sur la charité, et c'était la charité accepte tout, je crois, la loi accepte tout. Évidemment, quand on dit ça à des époux, ils disent ok, la charité accepte tout, jusqu'où? Forcément. Et dans la conclusion, je faisais une petite référence à ce rite qui existe dans l'église croate et dans quelques églises orientales où, lorsqu'ils se marient, les époux ne se donnent pas la main mais tiennent tous les deux le crucifix qu'ils se sont procuré et qui ensuite sera accroché au-dessus de leur vie. Et alors, évidemment, quand on dit, ben voilà, pour votre mariage, tenez, voilà une croix, ça fait un peu rire et un peu rire jaune, parce qu'on dit, voilà, qu'est-ce qu'on nous promet. Mais en fait, le crucifix, regardez comme ça, c'est vraiment pas l'instrument du supplice, mais le témoignage de l'amour suprême qui fait qu'on se donne. Et c'est vraiment ça ce qu'il faut en voir. Voilà, toujours est-il que cet amour de Dieu, pour nous le rendre palpable, il a voulu prendre assise sur notre condition humaine, notre corporéité, notre relation, les atouts de l'humanité qui sont là dès l'origine, pour l'élever au rang de l'expression efficace qui signifie sa grâce et la rend actuelle, c'est-à-dire un sacrement. Le Concile Vatican II, et je vais terminer avec ça pour cette introduction, le Concile Vatican II parle de l'Église comme sacrement. C'est-à-dire que l'Église signifie et actualise l'œuvre de Dieu. On le comprend bien. Et c'est justement en se fondant sur cette expression la plus haute de l'amour de Dieu, expression de la grandeur même du mariage, que ça pourra être fait. Alors voilà, pour terminer cette introduction, je vous propose simplement de dire un gloire au Père ensemble. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, que ce texte, j'espère, de l'Épître aux Éphésiens, puisse servir de support spirituel un petit peu à ce qu'on va développer ce soir. Alors avec vous, je vais essayer de faire... d'approfondir ce qu'est le sacrement de mariage en ayant un regard d'abord historique, parce que souvent on comprend mieux le contenu de notre foi en regardant face à quelles hérésies ou à quelles erreurs on a pu être confronté. Et au moins on peut se dire, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas là-dedans qu'il faut donner le moment. Et puis ensuite, lorsqu'on arrivera évidemment au Moyen-Âge, on se fondera un petit peu plus sur les développements, quelques développements théologiques, pour redonner l'essentiel de ce que le sacrement de mariage. Je m'appuierai aussi sur le droit canon, qui est quelque chose d'important pour saisir les choses. Et enfin, en dernier, si je parle suffisamment vite, eh bien, je ferai quelques éléments sur des cas. Enfin, des questions plus particulières, les effets du mariage, la question de la foi dans le mariage, et aussi les questions autour de rupture, de séparation, ou de dissolution de mariage. Alors, je ne vais pas me perdre dans les méandres du droit canon, mais c'est pas mal d'avoir quelques points, parce que ça permet aussi d'approfondir cette connaissance spirituelle et théologique. Alors, sur l'écran que vous avez devant vous, je mets simplement mon plan, s'il apparaît, enfin, au fur et à mesure. Voilà, donc je commence par une petite histoire du sacrement de mariage. Très rapidement, en fait, dans l'histoire de l'Église, On a insisté sur la question du mariage. On n'en parlait pas forcément dès le début comme d'un sacrement. Le motif des discussions autour du mariage, c'est qu'il y avait une nécessité de parler de sa valeur morale. Et les fidèles sont inscrits par les pères de l'Église pour approfondir des questions qui sont les questions qui demeurent toujours, hein. Les questions autour de l'indissolubilité, la chasteté, le devoir des époux. Et on a une littérature assez abondante, mais aussi assez hétéroclite, sur ce contenu des discussions que je vais essayer de développer. Alors évidemment, comme on vient de le voir avec le petit extrait de l'Épître aux Éphésiens, les Épîtres de saint Paul avaient introduit très largement dans la morale du mariage, y compris avec une certaine insistance sur la pratique morale à tenir, y compris jusque dans l'attitude des parents vis-à-vis des enfants vis-à-vis des parents, hein, vous savez, les parents n'exaspérez pas vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents, quand le Seigneur cela est juste, honore ton père et ta mère, tel est le premier commandement auquel il faut attacher une promesse, pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais usez en les éduquant de corrections, de semences qui s'inspirent du Seigneur. Qui s'inspirent du Seigneur. Bien écrit. Saint Paul avait parlé de la voie la plus parfaite, située dans le renoncement au bien de ce monde, bien introduit par le Christ, vous savez, quand il parle de la continence, lorsque les disciples lui disent, mais Seigneur, si c'est ça le mariage, il n'est pas expédient de se marier. Et le Seigneur leur répond, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et du coup, il va y avoir une grande question qui va se poser sur cette, entre guillemets, excellence de la continence ou de la virginité. Est-ce indispensable pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur en a parlé comme d'une voie excellente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déprécier le mariage? Évidemment, ça a été renforcé, ça, par le fait que le paganisme apportait un certain contraste avec cette attirance que pouvaient avoir les chrétiens pour une vie plus parfaite. Le paganisme, en règle générale, autorisait assez largement soit la polygamie, soit la monogamie, mais avec un certain nombre de maîtresses ou d'esclaves qui pouvaient être aussi considérées comme des maîtresses, etc. Et donc, il y a un contraste qui se fait, et souvent, quand on réagit par contraste, ça nous a été dit par le vieillard Siméon, ce sera un signe de contradiction, on va leur montrer ce que c'est que la contradiction. Et du coup, l'Église a pu insister sur cette valeur de la virginité, la continence, pour exalter cette voie par rapport à la tentation païenne, et donc a pu donner aussi quelques paroles exagérées à ce propos. Alors, on va essayer de balayer quelques idées comme ça pendant la période patristique. Les erreurs rigoristes qui en découlent. Et la première erreur que je voudrais mentionner, c'est ce qu'on appelle les encratites. L'encratisme, c'est une tendance rigoriste, assez répandue chez les chrétiens, et combattue par les pères en règle générale, mais elle a pu prendre un aspect de... Enfin, si ça avait été voté démocratiquement, il est possible qu'il y ait eu plus des moments dans l'Antiquité chrétienne où il y a eu une vraie tendance vers l'encratisme, et les pères qui ont essayé de tempérer cette tendance étaient un peu en minorité, quoi. Ils ont dû faire valoir la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour les encratites, il faut appliquer stricto sensu les règles de grande vertu énoncées par les évangiles et les épîtres. Et donc la conséquence, c'est que la véritable voie de vie chrétienne, c'est la continence, et la continence parfaite. Pour ça, il s'appuie sur les actes de saint Paul, il s'appuie sur un écrit apocryphe, qui a été retenu dans le canon des Écritures, qui s'appelle les actes de Paul, et tient à produire avec vigueur une prédication qui porte presque uniquement sur la pureté et la pureté sexuelle. Et alors, cet écrit apocryphe là, ben, ces détracteurs qui le contredisent pointent une tendance, je cite un des commentateurs, dit: ce séducteur trompe les âmes des jeunes gens et des vierges afin qu'ils ne se marient pas. Il écarte les jeunes gens des femmes et les vierges des hommes en disant: il ne peut y avoir pour vous de résurrection que si vous restez chaste et si, loin de souiller votre chair, vous restez pur. Alors, l'affaire de l'Église, Tertullien, montre très explicitement la condamnation du prêtre qui s'est rendu coupable de tels propos. Mais on va trouver quand même pas mal de propos habitant à la continence. Deuxième qui va se développer assez proche de cela, c'est l'agnostique. Ça a été un courant un peu plus intellectuel, un peu plus philosophique, qui essaye d'intellectualiser notre foi chrétienne, et qui notamment développe le fait que la matière est d'origine mauvaise. Il faut la connaissance, le gnous, c'est un peu compliqué, et on oppose ça à la matière, il faut quelque chose de pur. Elle est issue du mauvais, la matière, et elle souille l'âme. Et alors, quelques auteurs vont s'appuyer là-dessus pour soutenir des thèses qui renient la beauté du mariage. Par exemple, un auteur qui s'appelle Basilide conseille de s'abstenir du mariage et il ne le permet que comme un moindre mal pour se débarrasser des tentations. C'est quand même pas hyper élevé comme vision du mariage. Un autre, Martion, qui est plus connu, a été réputé lui aussi par Tertullien, mais il aura une influence considérable, et il sera suivi par un disciple, Tatien, qui appelle les noces une débauche et une corruption. Voilà, autant vous dire que le soir des noces, on n'invite pas tout le monde à dîner, parce que, voilà. Et alors, pour celui qui dit ça, Saint Jérôme, dira de lui que c'est le prince des entratistes, c'est le pire du pire. Une troisième voie, ce sont les montanistes. Alors les montanistes, ils épousent la voie d'une continence parfaite, d'un refus du mariage, d'abord parce qu'ils sont les adeptes d'une ascèse très rigoureuse, qui les pousse à rompre leur mariage pour vivre dans la continence. Sont dans l'attente du retour du Christ, de la parousie, et ils veulent se conformer à une ascèse qui lui correspond. Au ciel, vous serez comme des anges, vous n'aurez ni femme ni mari, dit Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu. Et donc, voilà, une fois qu'on a compris ça, on revient à ta femme de bon chez ton père, et on vit dans une ascèse plus grande. Alors, pour combattre ça, Tertullien, qui lui-même a été marié, fait un magnifique tableau de ce qu'est le mariage. Bonheur chrétien, vie conjugale heureuse, vie surnaturelle des époux, on y trouve tout ça, mais lui-même, c'est pour ça que c'est pas Saint Tertullien, lui-même va tomber dans cet excès d'ascèse. Et dans sa défense, il va défendre très fermement la virginité par rapport au mariage, ce qui est quelque chose de défendable, bien évident, puisque la tradition de l'Église l'a gardé quand même, cette valeur de la virginité. Mais il fait appel à une telle vigueur qu'il décrit aussi le mariage comme n'étant permis qu'à ceux qui ne peuvent échapper aux tentations. Donc, autant vous dire que le mariage, c'est le lot des faibles, quoi. Et dans sa condamnation du mariage, en fait, c'est pas tellement qu'il vise le mariage en lui-même, Mais Tertullien était assez préoccupé. En fait, il a écrit une lettre à son épouse. Il pensait que son épouse allait lui survivre. Et il lui a écrit une lettre pour lui montrer comment le veuvage peut se convertir en une vraie virginité, une vraie consécration pour Dieu. Et donc, en fait, il réfute surtout le remariage après le veuvage. Surtout ça, avec une telle exaltation, pour éviter que sa femme se remarie, qu'il va dire une veuve qui se remarie est dans une situation de bigamie. Alors, c'est là que ça tranche un peu dans sa théologie. Des ascètes, j'en dis juste un petit mot parce que c'est la même chose que c'est dans la lignée des montanistes. Hein. Les ascètes, ils répondent le mariage, ils exaltent la virginité, parce que pour eux, le mariage ne peut pas être une voie de salut. Voilà. C'est plus par le choix de la voie de salut qu'ils voient ça. Et puis, en réaction à ça, après les erreurs rigoristes, on va avoir des erreurs laxistes sur le mariage. Évidemment, c'est toujours le mouvement balancier, dans tous les sens. Et vers la fin du 4e siècle, notamment, un courant laxiste apparaît avec un certain Helvidius qui s'appuie pour développer sa théorie sur le fait que, pour lui, la Sainte Vierge a eu d'autres enfants après le Seigneur. Puisque dans l'Évangile, il est dit « Ta mère et tes frères sont là, ils t'attendent dehors ». Donc ça veut dire que la Sainte Vierge a eu d'autres enfants après le Seigneur, donc elle n'est pas vierge, donc il n'y aura pas la Sainte Vierge, on dira Marie. Et de ce fait, c'est ce qui va lui permettre de lui dire que le mariage l'emporte en valeur sur la virginité. Alors il sera lui aussi confondu par Saint Jérôme, vous voyez, qui tape de tous les côtés pour essayer de garder la voie à droite, et qui lui répond en couvrant la virginité de Marie, et en défendant aussi la valeur de la virginité. Saint Jérôme, le même Saint Jérôme, devra répondre à un autre, un moine, qui s'appelle Jovinien, qui après un début de vie monastique très austère, finit par renoncer, et en général, quand on renonce publiquement à ses engagements, on se vautre dans l'inverse. Et donc, il s'est vautré, lui, dans le luxe et les plaisirs. Et pour défendre son idée, pour défendre la route qu'il a empruntée, il prend l'exemple des patriarches de l'Ancien Testament qui se sont sanctifiés dans le mariage, ou encore ceux des apôtres qui furent mariés. Et il s'appuie sur le fait que Jésus prévint à Cana et manifestait son estime pour le mariage. Et donc, tout cela est juste, si vous voulez. Donc souvent, ça s'appuie sur des choses tout à fait justes. Il faut se souvenir aussi que lorsque le serpent est venu parler à Ève, il dit « Vous serez comme des dieux ». Et c'est pas complètement faux, hein. Il n'a rien dit vraiment faux, le serpent à Ève. Il n'a juste pas dit toute la vérité d'une telle manière qu'il l'a trompé, quoi. Donc, ça peut être assez subtil. En fait, qu'est-ce qui va découler de tout ça dans la réflexion sur le mariage, quand on est sur les 6-7 premiers siècles de l'Église, hein, ça couvre quand même une large période. La grande préoccupation de la période patristique, c'est de savoir si, oui ou non, le mariage est une bonne chose au regard de la virginité. Et là encore, c'est saint Augustin qui va apporter le présent le plus précieux sur le sacrement de mariage. Vous savez que saint Augustin, il a eu un fils hors mariage, Adéoda, après il sera devenu évêque. Et surtout, il a produit une très abondante littérature, et il a produit un traité sur la continence. Il a produit un traité sur le bien des époux. Il en a produit un sur la sainte virginité. Et tout en louant la virginité, saint Augustin ne prétend pas voir un mariage quelque chose de condamnable. Il voit même le mariage comme quelque chose de bon en soi, et ça c'est un petit peu une nouveauté dans la, dans l'analyse qu'on peut avoir dans la théologie, il voit le mariage comme quelque chose de bon en soi, et la virginité est au-dessus du mariage, et donc est honorée du fait que le mariage est déjà quelque chose de très bon. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le même mouvement de réflexion que ceux qui disaient la continence est excellente, donc le mariage est déprécié. Voilà. C'est comme un gâteau au chocolat fondant, bien sûr. C'est très beau. Un gâteau au chocolat fondant avec un glaçage à l'orange par-dessus, c'est encore meilleur. Voilà. Et ça ne veut pas dire que parce que le gâteau au chocolat avec le glaçage à l'orange est excellent, le gâteau au chocolat n'est pas bon. Et donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que saint Augustin le dit. Et il va louer la grandeur du mariage pour trois raisons. D'une part, parce que le mariage ouvre à la procréation, il va appeler la prole en latin, par l'acte conjugal, le rendant légitime et donc permettant de fonder un foyer, une famille. D'autre part, parce que le mariage, dans le lien entre les époux, est une manière de se témoigner d'une charité réciproque dans la chasteté. Et donc, ça donne de la valeur aux relations sexuelles. Et ça, c'est quelque chose de très grand, quoi, de très, très beau qu'introduit Saint-Augustin. Puis vous voyez évidemment qu'on commence à poser les bases de la théologie du mariage. Alors là, très clairement, les quatre piliers, ils commencent à sortir. Et puis aussi, dans le fait que le mariage est quelque chose de très grand parce que c'est un engagement indissoluble, définitif, et que donc il y a quelque chose qui le rend proche du sacrement de baptême qui nous introduit dans le royaume de Dieu en nous faisant entrer dans l'éternité. Voilà, donc on est très loin, on s'éloigne en tout cas, d'une perception trop matérialiste du mariage, où les relations conjugales pouvaient être perçues comme répugnantes, mais hélas, répugnantes, mais comme nécessaires, on les admettait, vous voyez, où on rentre dans cette définition du mariage, où on en a parlé comme du remedium concupiscentiae, c'est le moyen de remédier à sa concupiscence, quoi, pour se mépriser, pour rentrer dans un cadre et canaliser la concupiscence. Il y a le mariage, quoi, pour les moins bons. Donc, Saint-Augustin s'oppose à cette vision du mariage qui ne serait qu'une concession offerte par Dieu à l'infirmité de la chair, finalement. Qui consisterait comme concession à accepter, à légitimer l'acte conjugal. Et d'ailleurs, même un des grands commentateurs, Saint Jean Chrysostome, vraiment, a écrit un ouvrage très beau, notamment sur l'éducation des enfants, de la vaine gloire ou de l'éducation. C'est très concret, très actuel. Il pointe le fait que les parents peuvent avoir du mal de temps en temps à emmener leur adolescent à la messe. Il dit au père Anthony, ne vous découragez pas, vous continuez à y aller, faites tout ce que vous pouvez. Alors, c'est rassurant pour les parents aujourd'hui qui peuvent aussi avoir ce genre de difficultés de temps en temps, même si ça peut être aussi déprimant, parce que ça veut dire que ça fait 1500 ans qu'on est dans le même pétrin. Et voilà, il a quand même des choses très 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 concrètes, et c'est un terme d'église domestique. Mais ce même Saint Jean Chrysostome dit, je le cite, à un endroit, le mariage n'a qu'une fin, empêcher la fornication. Et c'est pour cela qu'a été institué ce remède. Un peu assis, hein, quand même. Donc voilà, Saint-Augustin est beaucoup plus juste dans sa conception Parce que si pour lui, saint Augustin, c'est quand même le docteur de l'Église qui a montré finement ce qu'était le péché originel et fait découler justement cette concupiscence, etc. Pour lui, le péché qui a ôté à l'homme son intégrité primitive lui fait ressentir une concupiscence. Mais pour lui, pour saint Augustin, il y aura toujours quelque chose de bon. Même si l'acte conjugal peut être touché par la concupiscence, il n'est pas un péché. Il peut être mêlé à un mal, il peut ne pas toujours être parfaitement vécu, même souvent imparfaitement vécu, c'est vrai, mais le mariage le tourne vers un bon usage. Donc il y a quelque chose de bon. Alors évidemment, l'homme en lui-même rougit de ce qui se trouve dans cet acte conjugal parce que il comprend qu'il peut contenir un désordre en lui-même, mais en le faisant tourner pour une femme honnête, il accomplit alors cet acte sans péché. Et c'est là toute la beauté de la lecture de saint Augustin qui fait grandir le mariage. Et du coup, saint Augustin introduit dans cet acte conjugal la valeur de la chasteté interne, c'est-à-dire de la beauté intrinsèque de cet acte lorsqu'il est bien vécu, et du coup, l'importance de le vivre dans une vraie chasteté, c'est-à-dire purifié d'intentions malsaines. Alors, quelques autres pères de l'Église, je vais être assez rapide. Dans l'Antiquité, dans l'époque patristique, les pères ne demandaient pas tellement si le mariage avait sa place dans la liste des sacrements. Très clairement, on n'a pas vraiment de liste de sacrements comme ça. Mais ils considéraient déjà le mariage institué par Jésus-Christ. La présence de Jésus à Cana, elle a été interprétée plus que simplement sa volonté manifeste de montrer sa proximité aux époux, mais plutôt comme celle de manifester aux époux de tous les siècles, enfin je veux dire aux époux de Cana dans le premier cas, comme celle de manifester aux époux de tous les siècles la sympathie, c'est-à-dire la grandeur qu'il voit dans le mariage. Donc il tient le mariage en estime, et ça, ça a toujours été retenu dans la lecture du texte de Cana. Si vous voulez aller voir le livre des pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin qui a fait des synthèses de tout ça, et donc il y a quelque chose qui se trouve en ligne sur Internet qui est assez intéressant, qui s'appelle la chaîne de la Catena Aurea, où chaque passage de l'Évangile est alimenté de citations de plusieurs pères de l'Église. Donc vous allez voir les noces de Cana, et c'est très clair, les pères de l'Église s'appuient sur ce passage pour dire que Jésus a voulu vraiment montrer comme le mariage était quelque chose d'estimable. Je cite par exemple saint Épiphane, qui envisage sa présence au mariage pour les raisons suivantes. Voilà ce qu'il dit. Il me semble que Jésus fut invité pour deux raisons. D'abord, afin d'entourer de chasteté et d'honnêteté les noces dans lesquelles la passion des hommes débordait comme une eau furieuse, et aussi pour en adoucir les peines futures par la suavité du vin qui enlève les chagrins et par la grâce. Voilà, donc on a le dessin, là, le schéma justement de la grâce de ce corps en mariage, alors avec un aspect aussi qui peut être un peu sexy, quoi. Si le vin des noces de Cana n'est que pour adoucir de sa suavité les peines futures, le mariage ne se résume pas, je crois, que à des peines à venir. Mais voilà, il y a une lecture quand même très, très fondamentale de ces noces de Cana. En tout cas, les pères de l'Église ne vont pas établir comme nous la dimension du don de la grâce, telle que ça va se manifester ensuite dans la théologie. Je veux dire qu'ils ne vont pas le systématiser, quoi. Ils ne vont pas l'analyser comme tel. Mais ils ont cru et enseigné quand même que la grâce est donnée aux époux, qu'elles font leur union, qu'elles assurent la fermeté de leur union, et surtout qu'elle est la réponse que Dieu donne à leur confiance. Les époux se confient à Dieu et Dieu répond par sa grâce. Tertullien, par exemple, verra dans la grâce divine une garantie contre les malheurs qui menaceraient les époux. Origène, lui, il enseigne que c'est Dieu lui-même qui unit les époux et que par conséquent, la grâce divine est en eux. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est avec saint Ambroise, quand même un des maîtres à penser de saint Augustin, qui rappelle aux hommes qu'ils doivent être fidèles à leurs épouses et que pour cela, ils mériteront le don de la grâce dans le mariage. Donc une grâce qui est donnée actuellement dans la fidélité vécue dans le mariage. Et là, on a posé clairement les quatre piliers et le contenu du mariage. Évidemment, ils vont développer aussi, nos pères de l'Église, le lien, l'analogie avec le Christ et l'Église. En reprenant ce qu'on a développé il y a un instant à partir d'Éphésiens 5. Et c'est surtout saint Augustin qui va pousser l'analyse le plus loin en développant le mot de sacramentum. Sacramentum, c'est le grand mystère qu'on a évoqué dans Éphésiens 5. Alors l'Église elle-même va progressivement prendre sa place dans la célébration elle-même du mariage. Le mariage, c'est une institution naturelle, on l'a déjà mentionné. Le mariage avait déjà sa place rituelle chez les Juifs. Et l'Église va accorder toute son importance à la réalité de ce don du mariage, de cette union, sanctifiée par le Christ. Très vite, l'Église, en tant qu'institution, à travers les évêques, les prêtres, va prendre part à la célébration du mariage. Par exemple, saint Ignace dit qu'il serait bon que ceux qui se marient, tant hommes que femmes, je ne sais pas comment ils pourraient faire autrement, enfin, ça reste une énigme, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on ne se posait pas trop de questions comme aujourd'hui, qui est formidable. En bref, il serait bon que ceux qui se marient, tant hommes que femmes, ne contractassent leur union qu'avec l'approbation de l'évêque. Car c'est la pensée de Dieu qui doit présider au mariage et non la passion. Tout pour la gloire de Dieu. Donc le but, en remettant ça entre les mains de l'évêque, c'est de remettre vraiment la place de Dieu au centre de cette union. C'est mentionné aussi dans les écrits de Tertullien, qui dit que le mariage chrétien doit être conclu devant le prêtre et béni par lui. Et il s'en sert, et il est malade, Tertullien, il pense toujours à sa femme qui pourrait être veuve et qui pourrait aller se marier avec un autre, et ça, il a du mal à supporter le truc. Et donc, il dit que le prêtre ne peut être marié qu'une seule fois, puisque les prêtres, lorsqu'ils accèdent au prêtre comme sacerdoce, ils s'engagent à la continence. Même s'ils étaient mariés, à cette époque-là, ça se fait d'accord avec leur épouse, ils s'engagent elle aussi, avec c'est un dommage collatéral pour elle. Quoi. Mais donc, le prêtre s'engage à la continence. Donc, le prêtre ne peut être marié qu'une seule fois. Et comment un prêtre qui ne peut être marié qu'une seule fois pourrait donner une seconde noce à un autre? Voilà. Bon, ça ne se défend pas énormément comme argument, mais Tertullien, avait trouvé ça. Voilà. Et puis très vite, le rituel va être fixé dans la pratique de l'Église. Un rituel où saint Ambroise mentionne par exemple la vélation, le rite du voile, et la bénédiction. Saint Ambroise qui recommande aussi, par souci de cohérence du sens de l'alliance entre Christ et l'Église, de ne pas se marier avec une païenne, chose qui existe énormément dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le mariage d'un homme du peuple de Dieu avec une païenne, c'est considéré comme une trahison, parce que ça veut dire que la fidélité à Dieu est entachée. Donc ce n'est pas possible. Il va y avoir quand même le livre de Ruth qui fait que Ruth est une païenne et qui va intégrer le peuple de Dieu pour pouvoir, du coup, ensuite avoir un enfant, etc. Il va trouver un bel homme qui va l'épouser, mais une fois qu'elle aura intégré le peuple de Dieu. Voilà. Et puis dans la lignée de cela, Saint Ambroise va parler du premier rite, celui de la vélation, qui doit être accompli par un prêtre. Alors il explique, lui aussi, c'est un peu toujours très guerre, hein, la perspective du mariage que peuvent développer les pères de l'Église, mais ça prouve aussi qu'ils ont une certaine